Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathurin Loncle, designer UX/UI au sein de La Grande Ourse. Merci de nous rejoindre pour cet épisode d'Un Poil du X, en direct de notre agence. Aujourd'hui, nous accueillons à nouveau Chiara Angori, senior content designer chez Casavo. Chiara était notre invitée lors de notre dernier épisode qui portait sur l'écriture inclusive. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre page YouTube. Le sujet de l'épisode du jour est « Designer pour les personnes transgenres, comment rendre son design plus inclusif ?» Bonjour Chiara, bienvenue. Pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté le dernier épisode, pourrais-tu nous parler rapidement de ton parcours ?
Oui, bien sûr. Alors oui, je m'appelle Chiara, j'ai travaillé aujourd'hui comme designer chez Casavo. J'ai une formation en langue étrangère et puis en traduction spécialisée et j'ai travaillé comme traductrice dans la traduction e-commerce. Depuis début 2021, j'étais avant UX Writer chez Doctolib et après j'ai bougé plutôt dans le real estate, du coup dans l'immobilier avec Casavo. À côté, je cherche à m'intéresser à différents thèmes, à différentes entreprises qui sont aujourd'hui différentes initiatives, que ce soit mentor et bénévole chez Hexagon UX ou en club du livre Content Design ou aux différentes conférences qu'il y a en France.
Merci beaucoup. Afin d'introduire cet épisode, je pense qu'il sera important de définir certains termes qui seront utilisés dans ce dernier. Par exemple, comment est-ce qu'on définit la différence entre sexe et genre et qu'est-ce qu'une personne transgenre ?
Bien sûr. Alors, le sexe, c'est ce qui est le plus facile à comprendre. C'est pour ça qu'on va commencer par ça. En fait, quand on est, on a des attributs biologiques qui font en sorte qu'on est considéré avec un sexe masculin, féminin ou intersexe. Le genre, c'est pas le sexe, c'est pas du tout ça, mais c'est en fait comment nous, on va comprendre, comment va être notre perception de notre genre. Du coup, dans la plupart des cas, les gens sont cisgenres, c'est-à-dire qu'ils ont un sexe à la naissance et en grandissant, ils ont le même genre. Ils ressentent d'appartenir au même genre. Par exemple, moi, Chiara, je suis née avec un sexe féminin, je me sens une femme et du coup, en fait, je vais être une personne cisgenre. Après, ils peuvent avoir aussi des personnes transgenres. On parle des personnes transgenres quand la personne elle est née à la naissance avec un certain sexe qui lui a été assigné, du coup on va dire un sexe féminin, mais après en grandissant, elle se rend compte qu'elle ne se retrouve pas dans le genre féminin et qu'elle préfère, elle se sent en fait homme dans ces cas. Et du coup en fait c'est une personne transgenre qui peut être M2F, du coup male to female, ou F2M, du coup female to male. Il y a aussi une autre spécificité du spectre transgenre, c'est-à-dire les personnes non-binaires dont on va parler dans les podcasts, qui vont être en fait les personnes qui ne se sentent pas ni des femmes ni des hommes. Et du coup, en fait, c'est des personnes qui on va dire, dans le spectre transgenre parce qu'elles ne se sentent pas dans le sexe qui était assigné à la naissance, mais ce n'est pas pour autant qu'ils se retrouvent dans le genre, on va dire, inverse, du coup, s'ils sont nés femmes, ils se sentent quand même non-binaires, et hommes, ils se sentent non-binaires.
Très bien, très clair. Dis-moi si je me trompe, est-ce qu'on pourrait presque associer ça au fait que le sexe, ce soit du coup ce qu'on est, comme tu disais, à naissance, et le genre, c'est presque ce qu'on ressent dans son cerveau, ce qu'on pense dans notre tête ?
Oui, exactement. C'est l'identité qu'on a, parce qu'en fait, être une femme et être un homme dans les siècles, dans les années, c'est pas exactement la même chose, parce que tout dépend vraiment de la société où l'on habite. Et du coup, en fonction de ça, il peut y avoir une personne qui, je sais pas, en 1700, elle était cisgenre, mais après, si elle renaissait, on va dire, dans les années 2000, le concept de homme et des femmes a tellement évolué et tellement changé que peut-être elle serait une personne transgenre. C'est en fait vraiment, ça dépend vraiment de la société, de la culture et même de la ville, du pays où on habite.
Très clair. J'aimerais à présent que tu nous expliques quels sont les facteurs qui t'ont poussé à t'intéresser au sujet du design inclusif et plus spécifiquement pour les personnes transgenres.
Oui, bien sûr. Tout a commencé avec un formulaire, c'est-à-dire que je devais créer un formulaire. En fait, je me suis rendu compte que j'étais totalement bloquée. Je voulais faire quelque chose d'inclusif, mais après, j'étais perdue parce que j'ai dit, je mets les sexes, je mets les genres, je mets les pronoms. Qu'est-ce que je mets ? Et du coup, en fait, ça commençait un peu comme ça parce que je me suis rendu compte que même avec beaucoup de bienveillance, j'avais aucune idée de comment gérer ça d'une bonne façon. Aussi parce qu'en étant moi en personne cisgenre, je ne m'étais pas vraiment posé la question quand je devais acheter quelque chose sur Internet. Je mettais sexe féminin ou je mettais genre femme et c'est bon. Et du coup, en fait, une fois que j'étais moi de l'autre côté, en fait, je me suis posé la question de comment est-ce qu'on fait pour bien faire ?
Ok, très clair. Et quelles ont été les étapes du coup de ton projet jusqu'à maintenant? Comment le vois-tu évoluer par la suite?
Oui, alors les projets est né il y a plus ou moins un an. En fait, en février-mars 2022, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et en fait, je l'avais envoyé comme sujet pour Paris Web, sans savoir vraiment dans quoi je m'embarquais. Les sujets ont été acceptés, du coup, il fallait travailler maintenant. Et du coup, ça m'a pris plus ou moins 6 mois pour travailler dans la conférence qui s'appelait « La grande absente, la communauté trans dans nos produits digitaux ». Et j'ai fait ça avec Christopher De Paola, c'est-à-dire en pote. Maintenant, en pote, c'est un designer qui travaille chez Wild aujourd'hui et qui était vraiment intéressé à ces thèmes-là, qui du coup m'a aidé aussi à mieux comprendre et à juste mettre sur papier tout ce qu'on savait déjà, faire du benchmark, vraiment s'intéresser au sujet. Après, on a fait 2-3 événements pour améliorer les formats. On l'a par exemple porté aux universités, du coup on a pu faire des sessions des Q&A qui ont été pas forcément si longues quand on a fait Paris Web. Et la dernière étape, c'est-à-dire ça a été fin 2022, j'ai écrit un article sur Medium qui s'appelle Building Inclusive Products for Trans People, où en fait il y avait plusieurs buts. Le premier, c'était mettre vraiment sur papier et mettre en anglais pour que l'article soit disponible pour tout le monde et pour que, en fait, bah, on puisse discuter plus facilement de ce sujet. 2023, ça n'a pas avancé. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment de conférences prévues. Avec Christopher, on s'envoie souvent des WhatsApp quand on voit des trucs qui ne vont pas bien dans les différents formulaires, etc. Mais on n'a pas forcément avancé. Du coup, peut-être fin 2023, on va trouver soit des confs ou soit juste on va pousser les concepts encore plus loin, que ça peut être aussi bah, comment aborder l'inclusion dans l'entreprise quand on est designer.
Très bien. Et en tout cas, on mettra en description le lien de l'article de Chiara parce qu'il est vraiment très intéressant et j'inciterai tout le monde à aller le lire, tout simplement parce que ça représente avec des exemples concrets d'applications qui existent ou d'essais qui ont été faits par Chiara et Christopher. Du coup, voilà, ça permet vraiment d'illustrer ce qui est dit et c'est toujours pratique. Du coup, lors de notre dernier épisode, nous avons discuté de l'écriture inclusive. Je suppose que dans le cadre des personnes transgenres, l'inclusivité ne peut pas se limiter seulement à cette dimension.
Oui, en effet. En fait, l'écriture inclusive peut marcher, entre guillemets, quand on parle d'écriture inclusive, du coup, il et elle, ça peut marcher, par exemple, pour les personnes trans, mais non pas pour les personnes binaires, non binaires. Par exemple, pour une personne trans, bah, si une personne a fait une transition M2F, bah, on peut utiliser les pronoms elle, comme si c'était une personne cisgenre, parce que la langue nous permet de faire ça. Du coup, pour ça, il n'y a vraiment aucun souci. Les problèmes, entre guillemets, c'est pour les personnes non binaires, parce que le choix entre il ou elle n'est pas assez pour ces personnes-là. Du coup, il y a par exemple de nouveaux pronoms qui s'y créent, par exemple, yel. Alors que l'écriture neutre et épicène, comme on a dit, vu qu'il y a, on parle pas de genre, et ok, on peut l'utiliser avec tout le monde. Mais oui, en fait, l'inclusion et le fait de designer inclusif pour les personnes transgenres va vraiment au-delà. En fait, on voit si on produit est inclusif pour ces personnes ou pas, surtout pour ce qui concerne les formulaires, parce que c'est les moments où, en fait, on va demander à la personne les plus d'informations sur elle-même, et du coup, on va voir si, par exemple, il y a un choix de la civilité binaire, par exemple madame, monsieur, on va voir que ça va être problématique, ou par exemple si on ne va pas permettre de mettre des prénoms choisis, du coup on va dire bah moi sur mes documents je suis Chiara, mais je suis en train de faire une transition et mon prénom choisi c'est Marc, bah en fait un produit inclusif c'est aussi un produit qui me permet de mettre un prénom choisi et qui va m'appeler pendant tous les parcours avec ces prénoms-là et non pas les prénoms que j'ai sur mes papiers. Après, ça, bien évidemment, ça peut poser des problèmes pour des applis pour des banques, etc. Mais après, ça peut être aussi le fait d'utiliser des pronoms, mais un truc tout bête, mais que du coup, ça fait vraiment voir à quel point une appli peut être inclusive, ça peut être une notification push. Il y a des produits qui sont faits exprès pour aider les personnes transgenres à s'en sortir avec tous les médicaments, par exemple, et qui sont, par exemple, comme les testostérone. Du coup, objectivement, une personne qui prend une testostérone, il y a une grande possibilité qu'elle soit une personne trans. Et en fait, c'est des applis qui permettent d'avoir des notifications push qui sont discrètes, sont en mode discret, on va dire. Et du coup, au lieu de dire, bah, faut prendre du testostérone, ça peut dire juste, il faut arroser les plantes. Comme ça, si jamais je suis dans les transports en commun, bah, il n'y a pas de souci parce que j'ai juste reçu une notification neutre. Mais après, il y a aussi tout ce qui est représentation très stéréotypée, par exemple les applis pour faire du sport ou même dans les pubs.
Très bien. Et du coup, par rapport à ces représentations stéréotypées, pour donner un exemple, on pourra penser aux applications pour faire du sport pour les femmes. On va plus avoir des... Bon, c'est indiqué encore une fois dans l'article de Chiara, on a l'exemple visuel, mais on va pouvoir voir plutôt que ça va souvent viser les fessiers, les jambes. Alors, tandis que les applications pour hommes, dans les miniatures de l'application, l'icône, elles vont souvent mettre en avant les abdos, le haut du corps. Donc, ça peut être des choses comme ça qui sont assez, assez stéréotypées. Est-ce possible pour toi de décrire quelles sont les principales difficultés rencontrées par les personnes transgenres face à des services digitaux ? Tu l'as déjà un peu évoqué, mais...
Oui. Après, ça dépend de la situation de la personne, ça dépend du produit que la personne veut utiliser, mais il peut y avoir différentes problématiques, surtout quand la personne elle est amenée à utiliser plusieurs canaux en même temps. Par exemple, si aujourd'hui je dois appeler, Free, avec ma voix qui en voix assez féminine, on va dire, et en fait, je suis en train de faire une transition, ou j'ai déjà fait une transition, et mes documents sont au nom de Marc Angori. En fait, on a eu des cas quand on a fait de la recherche Kali où il y avait des personnes trans qui étaient en train de faire des transitions et du coup la voix et leur prénom ne matchaient plus entre guillemets. Et du coup, ces personnes-là, elles ont été obligées de demander à des copains ou des copines d'appeler à leur place parce qu'autrement, les conseillers ou la conseillère ne pouvaient pas vérifier leur propre identité. Et du coup, en fait, ça peut être embêtant dans la vie de tous les jours parce qu'en fait, tu n'as pas accès à des services. Ou même, tu vas à la poste, tu dois retirer un colis, mais c'est un prénom qui ne matche pas, entre guillemets, avec ta tête, malheureusement. Malheureusement, dans la plupart des cas, on a encore ces biais-là où, en fait, tu dois représenter aussi visuellement ton genre. Et du coup, imagine, tu vas à la poste, tu dois retirer un colis au nom de Chiara Angori, mais... le mec ou la meuf à l'accueil, elle a décidé que tu peux pas être une Chiara Angori, mais tu dois être en Marc Angori. Si elle te donne pas le colis ou elle commence à dire, mais du coup, c'est à votre mari, c'est à votre femme, ça peut être compliqué. Après, il y a aussi tout ce qui est vraiment dans les services digitaux, tout ce qui est formulaire. Du coup, en fait, si on me demande mon sexe, après on me demande mon genre, et je sais pas surtout comment cette donnée-là va être utilisée. Par exemple, dire que je suis une personne trans, n'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que c'est une information sensible et du coup, en fait, comment est-ce que le service va utiliser cette info-là ? Comment est-ce que les produits vont être changés, entre guillemets, en fonction de tout ça ? Et après, on a déjà parlé du sport, du coup, du fait que si t'es un mec, tu veux des jolis muscles, si t'es une femme, tu veux un joli fessier. Et après, il y a aussi les gros problèmes, surtout pour tout ce qui est banque, de l'outing forcé. C'est-à-dire, parfois, quand on utilise des applis comme Lydia ou PayPal, il peut ne pas y avoir la possibilité d'ajouter un prénom choisi. Et du coup, ça fait en sorte que si moi, je dois te virer de l'argent sur Lydia, par exemple, Mathurin, si sur l'appli, je suis encore comme Marc Angori et non pas Chiara Angori qui est mon prénom choisi, en fait... Lydia ou PayPal va me faire de l'outing, c'est-à-dire qu'il va dévoiler que je suis une personne trans sans mon consentement. Et du coup, au quotidien, ça peut être embêtant parce que ça veut dire en fait que tu dois faire une croix sur des services juste parce que en fait, le service n'est pas adapté à toi, à tes besoins et à tes requêtes.
Ok, donc comme vous pouvez l'entendre, en tout cas, si vous voulez vraiment être inclusif pour les personnes transgenres, je pense que ça demande que chaque expérience transgenre est différente l'une de l'autre, donc ça demande une vraie recherche utilisateur, tout simplement, et d'exemples et de l'itération concrète sur des essais.
Oui, bien sûr.
Je trouve qu'on entend souvent parler de design inclusif dans nos milieux, mais rarement grâce à des exemples aussi concrets que tes recherches. Selon toi, comment repères-tu une plateforme, un site ou une application qui a fait l'effort d'inclure tous les types de personnes au sein de sa réflexion.
Comme tu disais, la recherche utilisateur, ça reste hyper important, mais attention, la recherche utilisateur avec des personnes trans, parce qu'autrement, ça ne marche pas. On ne peut pas faire de la recherche sans ces personnes-là. Et juste, c'est hyper compliqué de faire de la recherche avec des personnes trans, mais non pas pour eux ou elles, mais en fait, les problèmes, c'est que c'est des sujets tellement personnels qu'il faut aussi mettre la personne en confiance pour me dévoiler, entre guillemets, ça. Parce que, en fait, c'est des personnes qui peuvent avoir vécu de la discrimination de différents type et forme. Et du coup, en fait, il faut aussi que la personne se sente en confiance pour parler des sujets si sensibles. En plus, pour tout ce qui concerne, voilà, comment dire si on produit inclusif ou pas, dans la plupart des cas, en fait, on va voir si un service est inclusif, si un service est neutre. C'est-à-dire si un service, en fait, il ne va pas demander des informations liées au sexe, au genre, au pronom, parce que c'est un service qui va être construit, on va dire, en manière épicène. Si on pense par exemple à Twitch, en fait, Twitch, même dans les formulaires d'inscription, il ne demande rien par rapport à tout ça. Et du coup, ça fait en sorte qu'ils ne doivent pas gérer les différents, entre guillemets, variables, parce qu'en fait, c'est le même absolument pour tout le monde. Et en plus, maintenant, après avoir fait ce type de recherche-là, j'ai commencé à voir des patterns où, en fait, on demande les genres, les pronoms, etc. Mais en fait, dans la plupart des cas, c'est des informations où, historiquement, on avait besoin côté marketing. Mais pour moi, chaque fois qu'on crée un produit, on doit se demander, est-ce que c'est vraiment une information dont j'ai besoin? Qu'est-ce que cette information va changer? Ça peut être important dans le domaine médical, par exemple, ou sur un site de rencontre. Mais à part ça, bah, dans beaucoup de produits, on les demande, mais ce n'est pas nécessaire. Si on va sur le site, je pense, de la SNCF, bah, qu'est-ce que ça t'échange si je dois prendre un billet de train, si je suis madame ou monsieur? Et même madame et monsieur, en soi, ça n'a pas de valeur légale. C'est les sexes qui est dans les documents et non pas les genres. Aujourd'hui, je pourrais dire que je veux me faire appeler monsieur. Personne ne peut me l'empêcher parce qu'en fait, ce n'est pas une donnée qui est juridiquement, on va dire, valable. Du coup, en fait, il y a aussi la problématique de est-ce que j'ai vraiment besoin de cette donnée et si j'ai fait semblant d'avoir besoin de cette donnée alors que je n'ai pas besoin, en fait, ces choix-là, on dit beaucoup plus sur la boîte, sur l'entreprise qui demande la donnée plutôt que sur la personne qui l'envoie. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on est encore à l'étape où on demande des informations qui ne sont pas nécessaires alors que dans l'UX, en général, on cherche à éliminer tout ce qui peut apporter de la friction et tout champ supplémentaire à remplir.
Ok, très clair. Du coup, là, tu as quand même nommé pas l'exemple. Tu nous as nommé Twitch, tu as parlé de SNCF, bon, pas du coup dans le bon côté, mais est-ce que tu aurais d'autres exemples à nous présenter ou pas?
Oui, bah, on a pu voir plusieurs exemples hyper positifs et même des choses qu'on n'avait pas forcément pensé au début, mais c'est vraiment en parlant avec des personnes trans qu'on a pensé à quel point ces solutions, elles étaient faciles d'implémentation, mais qu'en même temps, elles apportaient une vraie, vraie valeur. Par exemple, on a pu parler avec une personne qui a travaillé pour Eracom, c'est un fournisseur d'électricité en Italie. Et en fait, quand tu dois changer ton prénom, dans ces cas-là, dans les démarches pour une personne trans, en fait, le changement des prénoms est gratuit parce que en fait, tu ne donnes pas ton abonnement à quelqu'un d'autre, c'est juste que tu as changé des prénoms entre-temps. Et du coup, ça, c'est une petite chose, mais que du coup, rend la vie beaucoup plus facile parce que imaginez, demain, vous changez des prénoms, bah, il y a beaucoup de paperasse à faire. Au moins, oui, c'est à faire, mais c'est gratuit parce qu'il y a aussi le côté argent qui peut revenir assez souvent. Après, il y a le roller derby où, en fait, dans des formulaires qu'on nous avait transmis, en fait, il y a la possibilité de mettre un prénom choisi. Et du coup, ça veut dire que tous les documents dans les compétitions, etc., il ne va jamais y avoir notre prénom légal, on va dire les prénoms qui sont sur nos documents, mais les prénoms qu'on a choisis. Et du coup, en fait, bah, seul l'administrateur, seul, on va dire, les secrétariats, va avoir cette information-là. Pour tout ce qui est genre, il y a aussi tout ce qui est dans le monde du dating. Du coup, objectivement, bah, quand tu dois utiliser une appli de rencontre, le fait que l'appli soit inclusive est hyper important. Parce qu'autrement, en fait, l'appli décide d'exclure des gens. Et en fait, bah, ces gens-là, ils vont avoir une moins bonne expérience. Parce qu'en fait, bah, ils ne peuvent pas donner toutes les informations qu'ils ou elles veulent sur eux-mêmes. Je continue sur la civilité. Sur la civilité, en fait, on a Madame, Monsieur, ce qui est présent pratiquement partout dans tout formulaire que j'ai vu en français. Mais en fait, on a vu sur les formulaires de la Maison Blanche qu'il y avait un titre, qu'il y avait une civilité inclusive, une civilité non-binaire pour être spécifique, du coup MX. Du coup, en fait, c'est une civilité qui ne dit pas si la personne est une femme ou un homme. Du coup, ça peut être parfait pour les personnes non-binaires, mais ça peut être aussi utilisé pour des personnes qui juste ne veulent pas mettre l'information. Pour les pronoms, il y a LinkedIn où il y a la possibilité de mettre des pronoms. Du coup, ça, c'est très chouette. Et ici, en fait, pour les pronoms, un point important, c'est que c'est une manière de faire du militantisme sans sortir de sa chambre, quoi. C'est-à-dire que c'est une manière de juste dire, bah, le fait que visuellement, en fait, je ressemble à une femme peut ne pas vouloir dire, en fait, qu'on doit utiliser certains pronoms. Et après, comme on avait dit, il y a tout ce qui est notif discrète, par exemple par transmémo, où en fait on va vraiment comprendre que oui, le téléphone est un objet très personnel, mais en même temps, il peut y avoir des cas où on doit devoir le partager avec quelqu'un où notre écran, il est visible. Du coup, en fait, c'est vraiment de repenser aussi à la sécurité de l'utilisateur, parce que bah, si je suis à côté d'une personne malveillante, et la personne malveillante voit une notification de ce genre-là, bah, ma journée va être beaucoup plus compliquée.
Très bien. Donc on a déjà évoqué pas mal d'idées. Est-ce que tu aurais des techniques qui marchent, enfin, qui sont assez faciles à intégrer au sein de ton produit?
Bah, la neutralité est toujours la meilleure option parce qu'en fait, ça permet de se casser beaucoup moins la tête, d'un point de vue dev aussi. Et ça permet aussi de ne pas, oui, devoir gérer les différents variables. Aussi, dans plusieurs formulaires, par exemple, on voit femme, homme, autre. Et en fait, en parlant avec les gens, en parlant avec des personnes trans, on nous a dit, bah, il y a femme, homme, et après, il y a un vide, quoi. Il y a tout en même temps, il y a tout qui se ressemble. Et du coup, en fait, bah, même les mots autres, ça veut dire que t'es pas dans la bonne case, on va dire. T'es juste dans un chaos général. Et en fait, si par contre, il y a un véritable besoin du genre ou du sexe. Ce qui est intéressant, c'est de faire vraiment la recherche utilisateur avec des utilisateurs trans pour mieux comprendre en fait comment guider la personne, quel type d'information on recherche nous en tant que boîte et aussi de voir dans quel degré des spécificités on doit aller. Du coup, pour moi, c'est vraiment la neutralité si l'on peut et si les produits nous le permettent. Si par contre on a besoin de ces informations-là, que ce soit d'un point de vue légal ou juste parce qu'on est dans un domaine comme dans la santé, en fait c'est vraiment de parler avec des personnes concernées pour mieux comprendre comment aussi les mettre à l'aise. Il faut que le monde digital, ce soit un monde où on a envie d'être, on a envie de rester. Et du coup, bah, faut parler avec des vrais gens pour comprendre qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils doivent remplir un formulaire.
D'accord. Et par rapport à cette notion de formulaire, est-ce que je me demande vraiment, est-ce que vous avez trouvé une solution qui a répondu aux besoins de plusieurs personnes transgenres? Parce que j'imagine que du coup, si on met monsieur, madame, on va pas mettre transgenre en troisième, ça paraît aussi étrange. Du coup, okay. Est-ce qu'il y a une solution qui est ressortie ou pas du tout pour vous?
Bah, on a commencé à regarder, c'était compliqué de trouver une solution, mais après, comme je te disais, en fait, monsieur, madame ne veut rien dire d'un point de vue légal. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'on a prôné la neutralité. Après, on a poussé la recherche pour voir, en fait, s'il y avait d'autres manières de pousser ça. Mais après, ça dépend vraiment du cas par cas. Du coup, en fait, on avait commencé, on avait fait des prototypes pour tout ce qui est domaine médical. Mais en fait, ça devenait tellement spécifique et tellement on va dire, les produits, ils étaient spécifiques par rapport à la personne, si par exemple elle était trans ou pas, qu'en fait, bah, les utilisateurs n'avaient presque plus envie de l'utiliser. C'est-à-dire qu'ils avaient peur que leur expérience soit vraiment biaisée par le fait qu'elles étaient des personnes trans. Du coup, c'est pour ça qu'on prend la neutralité au maximum. Et après, en fait, chaque produit est différent. Pour moi, les débuts, c'est de se demander si cette information a du sens. Si en fait, on demande tout bêtement, on demande l'information du sexe, bah, on peut dire féminin, femme, homme, et féminin, masculin, désolé. Et après, en fait, mettre que ce soit des tools types pour guider une personne trans, ou même juste mettre un truc en mode je veux pas te donner cette info-là, parce que ça peut être une information très personnelle. Et du coup, après, bon, la recherche dit aussi que je préfère ne pas les dire, c'est considéré comme si je devais mettre l'information sous les tapis. Du coup, même niveau wording, on voit à quel point tout ce qui est mot est hyper important. Mais il n'y a pas de solution miracle, c'est vraiment voir pas cas par cas ce dont on a besoin en tant que boîte.
Ok, très très clair. Du coup, on en parlait de manière indirecte jusqu'à maintenant, mais selon toi, quel est le rôle du designer face à ces problématiques?
Bah, pour moi, les designers ont un rôle hyper important, c'est-à-dire de créer un espace digital qui soit sûr et serein pour tout le monde. C'est-à-dire, oui, on dit qu'on ne peut pas changer le monde réel, qu'on n'est pas tout seul et du coup, on ne peut pas le changer tout seul. Mais en même temps, quand on crée des produits digitaux, on crée des mondes entre guillemets parallèles, on crée une autre réalité. Et du coup, on veut que les gens soient bien en utilisant notre produit. On est payé pour ça, en fait. On est payé pour faire des produits qui soient agréables, utilisables par tout le monde. Du coup, en fait, pour moi, le fait d'être des activistes par rapport à ces sujets-là, ça permet aussi de ne pas désigner que pour les personnes qui nous ressemblent, mais en fait faire une véritable recherche aussi, apporter de la diversité au sein des équipes. Moi, par rapport au formulaire dont je parlais au tout début, qui a déclenché, on va dire, tous ces projets-là, en fait, je me suis posé la question parce que je suis une personne cisgenre. Alors que si j'étais une personne trans, peut-être j'aurais déjà une forte connaissance de tout ça. Et du coup, j'aurais déjà une solution à tester, bien évidemment. Mais j'aurais déjà eu des idées par rapport à ça. Du coup, en fait, pour moi, c'est aussi qu'on doit aligner ce qu'on prône et ce qu'on veut vraiment faire. Du coup, c'est sûr que changer un formulaire ne va pas changer la vie de tout le monde, ne va pas bouleverser la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais en même temps, ça donne de l'espoir parce que ça veut dire qu'en fait, une personne, même la personne plus extrémiste de droite, on va dire qu'on peut connaître, une personne transphobe, bah, en utilisant les produits, elle va voir que ces personnes-là existent, que ces personnes-là sont bien réelles. Aussi parce que dans la plupart des cas, on ne connaît pas personnellement nos personnes trans. Et du coup, apporter de la visibilité de ces personnes-là dans les produits digitaux, ça permet en fait de rendre les mondes digitaux plus vrais. C'est-à-dire qu'elle va vraiment refléter le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, quoi.
Ok. Du coup, dans le dernier épisode, je te demandais déjà quel conseil tu avais pour les personnes faisant face à de la résistance de la part de leur hiérarchie. Pourrais-tu réitérer tes arguments afin de pousser les personnes qui sont potentiellement réticentes à l'inclusivité au sein de leurs produits ?
L'argent. L'argent, c'est-à-dire que, en fait, être plus inclusif, ça veut dire en fait avoir plus de clients, tout bêtement. Et du coup, ça veut dire aussi c'est préparer une nouvelle génération. C'est-à-dire que, objectivement, si on voit les stats, les nouvelles générations sont beaucoup plus intéressés et sensibles à ces sujets-là. Du coup, en fait, bah, si on veut avoir des utilisateurs qui sont plus jeunes, par exemple, bah, on ne peut pas oublier, on ne peut pas mettre sur les tapis ces genres de thématiques. Et en plus, côté brand, en fait, surtout au mois de juin, le mois des fiertés, etc., il y a plein de logos aux couleurs de l'arc-en-ciel un peu de partout. Mais qu'est-ce que les boîtes font au quotidien ? C'est-à-dire de vraiment aligner c'est qu'on ressent avec ce que la boîte veut faire voir. Par exemple, bah, si on voit n'importe quelle boîte qui a voilà, les fameux drapeaux pour le Pride, bah, en fait, si on s'inscrit sur les sites, on voit Madame, Monsieur, on voit très clairement que c'était juste une move marketing, en fait, mais qu'ils n'y croient pas, parce qu'après, les produits, c'est leur propre produit, leur propre manière d'entrer en contact avec les gens. Et même là, en fait, ça ne les intéresse pas. Et à nouveau, parfois, on ne peut pas résumer tout à tout ce qui est argent. Ceci, juste l'humanité. En fait, on est payé pour ça, je répète. On est payé pour créer un environnement où il faut bien vivre en soi. Et du coup, en fait, le fait de créer un espace digital qui soit safe pour tout le monde, ça va permettre en fait de s'y pousser en majeure diversité dans la tech. Parce que bah, je vais avoir beaucoup plus envie de travailler pour une boîte qui m'a montré de façon très 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 pratique que c'est pas juste du blabla, que c'est un truc qui les intéresse vraiment. Et c'est pour ça que je remets en point là-dessus. C'est important aussi de faire de la recherche avec des personnes trans, de les mettre en confiance et faire en sorte que ces personnes-là peuvent vraiment et vraiment nous aider à améliorer nos produits. Parce qu'on ne peut pas construire pour quelqu'un si c'est quelqu'un n'est pas dans la salle avec nous.
Ok. Avant de nous quitter, est-ce que tu aurais une référence, un article, un livre, une œuvre au sujet de l'inclusivité ou bien de l'expérience des personnes transgenres et queer à partager avec nos auditeurs ?
Oui, bien sûr. Il y a plusieurs livres que j'ai vraiment, vraiment aimés. Je vous ai déjà parlé dans l'autre épisode de Femmes Invisibles de Caroline Criado-Pérez, qui est beaucoup plus en fait sur le thème du genre, on va dire du féminisme, mais c'est hyper intéressant pour rentrer dans les sujets. Après, il y a les livres de Sarah Wacher-Boecher, j'espère avoir bien prononcé, qui s'appelle Technically Wrong, qui en fait parle de l'importance de rendre l'espace digital beaucoup plus safe pour tout le monde, et un livre qui est spécifiquement sur les thèmes des personnes transgenres, qui s'appelle Transfuge des sexes, par Emmanuel Bobassi, où en fait il y a plein de stats, il y a plein des vrais chiffres en fait qui vont aider à comprendre aussi la psychologie et les problématiques que ces personnes peuvent avoir. Après, si vous préférez plutôt les vidéos, il y a un documentaire Netflix qui s'appelle Disclosure, où en fait ils vont parler de la représentation des personnes trans dans les médias, que ce soit même par exemple Ace Ventura et du coup le film qu'aujourd'hui tout le monde déteste parce que bah c'était une autre époque, on pensait que faire des outings comme ça c'était une très bonne idée. Et après il y a aussi le podcast Tartine de vie de Tartine de vie qui s'appelle Je suis transgenre, où en fait bah c'est une discussion de Ben Nevers avec trois personnes trans et du coup ils parlent de différents sujets dont par exemple du thème de la santé et entre autres il y a un homme trans qui raconte en fait qu'il s'est fait récaler systématiquement du gynéco parce qu'aucun gynéco veut les prendre comme patient. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que il a commencé à mettre de côté sa santé avec tous les problèmes qu'ils peuvent avoir à suite de cette décision. Et comme tu avais dit tout à l'heure, il y a aussi le site uxetgenre.com par Emilie Hoff qui est vraiment hyper bien fait. Il y a beaucoup de ressources. On peut vraiment passer des heures dessus.
Merci beaucoup, Chiara.
Merci à toi.
Et merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Un poil du X de la Grande Ourse. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir et à partager le lien de l'épisode sur vos réseaux. Vous pouvez également retrouver de nombreux articles sur notre blog lagrandeourse.design. N'hésitez pas à aller également consulter les articles de Chiara sur son Medium. Le lien sera encore une fois placé dans la description. Merci et à très vite pour un nouvel épisode d'Un poil du X.